With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Bonjour, c'est Thibault Lambert pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Au moins 100 000 personnes sont décédées du Covid-19 en France depuis le début de la pandémie. Ce chiffre a été dépassé le jeudi 15 avril, un peu plus d'un an après le recensement du tout premier mort français. Dans cet épisode aujourd'hui, les deux journalistes santé du Parisien viennent nous raconter comment elles couvrent cette crise sanitaire depuis le début. Florence Méréo et Elsa Marie sont dans Code Source. Florence Méréo, Elsa Marie, vous couvrez l'actualité santé au sens large pour le Parisien. Habituellement, vous écrivez des papiers sur toutes les maladies. Depuis plus d'un an, le Covid-19, il occupe quelle place dans votre travail ?
Une place prépondérante. Imaginez, la première une que l'on fait aux Parisiens sur le virus, elle date du 25 janvier 2020. On va la titrer à l'époque « Faut-il avoir peur du coronavirus ?». Depuis, c'est au moins 210 autres unes que l'on a fait aux Parisiens. C'est une quinzaine de podcasts, c'est des milliers d'articles qui ont été publiés sur la partie papier comme sur le web. Un an d'épidémie, ça veut dire qu'il faut pouvoir suivre son évolution, mais également, et c'est ce qui nous tient à cœur, c'est de raconter des histoires humaines, aller trouver des reportages un petit peu décalés. Et il y a aussi, effectivement, vous disiez, les autres maladies. Il faut pouvoir trouver une place pour ces autres maladies. Et c'est vrai que parfois, nous, en tant que journalistes santé, il y a cette tristesse, voire une frustration, à finalement donner moins de visibilité à d'autres pathologies qui le méritent tout autant.
Aujourd'hui, dans Code Source, vous allez nous raconter cette pandémie à travers les reportages, les interviews qui vous ont marqué. Florence Méréo, on remonte au tout début de cette crise, au début de l'année 2020. À quel moment l'arrivée du coronavirus en France devient concrète pour vous ?
Je dirais que c'est lors du premier mort, le 26 février 2020. Je me souviens très bien de ce jour-là. Je faisais un papier sur de nouveaux traitements contre le cancer qui étaient testés sur des mini-organes. Et là, l'annonce tombe et je me dis, on arrête tout. Il faut qu'on se mette en ordre de bataille. Et je me rappelle m'être dit, c'est soit un mort et c'est tout, soit on va partir pour très longtemps. Il y avait eu un autre signal d'alarme quelques jours auparavant. Olivier Véran était devenu le nouveau ministre de la Santé. Et il nous avait accordé sa première interview. Cette interview, je l'ai faite dans le train qui le menait de Paris à Saint-Étienne où il était en déplacement. Au début, il est assez détendu, Olivier Véran. Et au fur et à mesure de l'entretien, je sens qu'il se tend un petit peu. Il reçoit des SMS, des membres de son cabinet l'interpellent. Et finalement, à la fin, il va nous dire « Mais vous savez, nous nous préparons à une épidémie. Le mot est lâché, il peut y avoir une épidémie de coronavirus en France. »
Dès lundi, et jusqu'à nouvel ordre, les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et les universités seront fermées.
Elsa Marie, le jeudi 12 mars, le président Emmanuel Macron annonce la fermeture des écoles pour contenir l'épidémie dans une allocution télévisée. Quelques heures plus tôt, dans la journée, vous échangez avec des médecins et ils sont très inquiets.
Oui, jusque-là, les discours étaient plutôt mesurés. Et c'est la première fois qu'on a des témoignages qui sont vraiment alertants. Le premier, c'est celui de Gilles Pialoux, qui est infectiologue à Thenon, et qui nous dit, voilà, on s'est trompé. Il faut arrêter de comparer le coronavirus à une grippe. C'est plus grave, le virus est plus contagieux, il est plus mortel. Et on voit déjà le profil des patients changer, puisqu'à l'hôpital, il y a des malades de 30-40 ans. Il dit, voilà, je veux pas affoler, mais je pense qu'à un moment, il faut mettre aussi les gens face à la réalité. Et la réalité, c'est qu'ils s'attendent au pire. Il y a un deuxième témoignage qui va dans ce sens. C'est celui de son confrère, Eric Combe, à la Salpêtrière, qui dit, voilà, on est au pied du mur, il faut confiner. Et encore un troisième, celui d'une infirmière, qui dit que, voilà, je vous préviens, on s'attend à des milliers de morts.
Qu'est-ce que vous décidez de faire à ce moment-là ?
J'en parle tout de suite à mes chefs de service parce que c'est vrai que ça pose la question de la responsabilité. On est là pour informer et on n'est pas là non plus pour affoler. On sent qu'il y a un moment de bascule et donc on décide de publier cet article. C'est bien plus grave que prévu.
4 jours plus tard, le 16 mars, à la veille de l'entrée en vigueur d'un confinement strict sur tout le territoire, Florence Méréo, vous avez au téléphone Jean Rottner, le président de la région Grand Est, la plus touchée par l'épidémie à ce moment-là, ainsi que quelques soignants. Qu'est-ce que tous ces gens vous disent ?
Je me souviens de ce jour, on était justement avec Elsa, et on a eu beaucoup de médecins, d'infirmières, partout dans le Grand Est où l'épidémie flambait. Tous nous disent qu'ils ont une nécessité à faire passer un message. Attention, ce qui se passe chez nous peut arriver partout en France. Et effectivement, on a Jean Rottner. Alors Jean Rottner, c'est un homme politique, d'opposition, qui préside une grande région, la région Grand Est, mais c'est aussi un médecin urgentiste. Et Jean Rottner va nous dire, je vous en supplie, faites le relais du message, je ne sais pas si vous mesurez ce que l'on vit. Les hôpitaux débordent, il faut transférer des patients, les soignants sont déjà épuisés. Une infirmière que l'on va avoir à Mulhouse va même nous dire que oui, il lui est arrivé de devoir trier des patients, faute de place.
Au mois d'avril, pendant le pic de la première vague épidémique, vous êtes une des premières journalistes en France à pénétrer dans un service de réanimation saturé. Vous avez passé plus de 16 heures dans le service du CHU de Bordeaux. Qu'est-ce que vous voyez sur place ?
Il y a plusieurs choses qui m'ont marquée. D'abord, c'est le calme qui y règne. En fait, c'est les cas les plus graves qui y sont traités. L'heure, elle n'est pas à la panique, elle n'est pas à l'agitation. Il faut que les soignants soient concentrés parce que le service est plein. C'est 28 lits remplis de patients Covid. L'autre chose qui m'a énormément marquée, à la nuit tombée, ce sont les soignants qui vont mettre les patients. Dans le jargon, on dit en décubitus ventral, ça veut dire sur le ventre. En fait, les patients ont les poumons tellement comprimés par le virus qu'ils ont besoin d'être soulagés, donc on les change de position. Quand je suis arrivée le matin, tout le monde était sur le dos. Quand je suis repartie le soir, il y avait la moitié du service qui était sur le ventre.
Et vous vous rendez compte que le personnel médical doit appliquer des gestes extrêmement techniques ?
Oui, par exemple, j'assiste à l'intubation d'un patient. Donc, c'est-à-dire qu'on va mettre un tuyau dans sa gorge pour l'aider à respirer, puisque ses poumons n'en sont plus capables. Ce patient, quelques minutes avant, il était encore en train de discuter avec nous et son état s'est aggravé presque d'un seul coup.
Sur place, vous assistez au réveil d'un patient resté plusieurs jours dans le coma.
Oui, c'est René. Il a 63 ans, il a passé 12 jours dans le coma. René va être extubé, c'est-à-dire qu'on va lui retirer le tuyau qui lui permettait de respirer artificiellement. Au début, il est haletant, il bafouille, il n'est pas très bien. Et chose assez rare, il va se remettre assez rapidement. À peine quelques heures plus tard, René va être capable de parler, du coup de me parler. Et aussi, je vais assister à la première cuillère de compote de mangue qu'il va absorber. C'est une compote tout à fait lambda, sauf que il n'arrête pas de dire qu'elle est succulente. C'est vraiment son retour à la vie réelle. René va le dire à plusieurs reprises, « On m'a fait vivre, on m'a fait vivre ».
Il y a un autre reportage qui vous a particulièrement marqué, Florence Méréo, pendant cette première vague. Le 6 mai 2020, vous racontez dans Le Parisien le quotidien d'une société de pompes funèbres chargée d'organiser des funérailles pour les morts du Covid.
Oui, je passe une journée avec cette entreprise de pompes funèbres. C'est à Pantin, en Seine-Saint-Denis. Et j'y vais, en fait, dans l'esprit de pouvoir rencontrer des familles. Quand une personne décède du coronavirus, son cercueil est scellé. Donc, c'est vraiment des deuils très particuliers, des enterrements très spécifiques. Et lorsque j'arrive au reportage, il n'y a pas de famille. C'est un fils qui appelle en disant « J'ai moi-même le coronavirus, je ne pourrais pas venir à l'enterrement de ma mère ». Et là, je vous avoue, je m'étais dit mais qu'est-ce que je vais raconter finalement s'il n'y a pas les familles ? Et après, je me suis dit « Mais en fait, c'est tout le cœur du sujet ». En fait, j'assiste à un moment absolument incroyable. On a des milliers de morts et finalement, il n'y a personne pour les enterrer. Le Covid, ça a aussi entraîné ça. Des dégâts sur les rites funéraires, les traditions, les coutumes. Ça a aussi créé des deuils totalement impossibles.
Et donc ces cérémonies, elles avaient quand même lieu ?
Elles avaient quand même lieu parce que les employés des pompes funèbres tenaient absolument à rendre hommage aux morts. Donc la cérémonie avait lieu, il y avait des chansons, il y avait des petits discours. Et je me souviens même du maître de cérémonie qui filmait finalement les quelques minutes pour les envoyer aux familles afin qu'elles puissent le visionner même à distance.
Elsa Marie, de votre côté, vous avez pu assister à des retrouvailles très émouvantes entre une résidente d'EHPAD et ses proches qui n'ont pas pu lui rendre visite pendant plus d'un mois et demi.
On est le 22 avril et ça fait un mois et demi que les visites sont interdites dans les EHPAD et le gouvernement décide de les réautoriser, mais dans un cadre très précis, c'est-à-dire notamment derrière une vitre. Et donc on va à l'EHPAD du Chesnay dans les Yvelines et on rencontre Paulette, elle a 98 ans. Elle attend dans un petit salon de pouvoir voir derrière la vitre Annie, sa fille et son gendre qui vont apparaître derrière le portillon. Elle s'est fait très belle, elle a un foulard en soie, elle a mis une perle de Tahiti autour de son cou. Elle regarde, elle cherche du regard ses silhouettes familières et elles arrivent enfin. Et là en fait, elle saute sur la poignée de la fenêtre. Et pour essayer de l'ouvrir, et sa fille lui dit « Non, on ne peut pas l'ouvrir, mais regarde maman, on peut se toucher comme ça. » Et à ce moment-là, en fait, elle met sa main sur la vitre, et la petite dame met ses doigts tremblants sur les siens, et elle se regarde comme ça, et elle s'envoie des baisers. Et c'est là aussi où je comprends à quel point la présence des proches, c'est ce qui maintient en vie les résidents.
Quelques jours avant le début du déconfinement, annoncé pour le 11 mai, vous vous rendez au service d'infectiologie de l'hôpital Tenon à Paris, qui a reçu beaucoup de patients Covid pendant cette période. Là-bas, vous rencontrez une équipe de soignants fatigués.
Quand j'arrive dans le service, ce qui est étonnant, c'est que la moitié des lits sont vides. Le gros de l'épidémie est passé, les soignants ont beaucoup moins de travail. Ils disent qu'ils se méfient du silence actuel. Ils ont l'impression que la tempête est en train de s'éloigner, mais ils savent très bien qu'elle est en train de tourner autour d'eux.
Elsa Marie, on va faire un saut dans le temps. Après l'été, début octobre, alors que les courbes des contaminations et de la mortalité repartent à la hausse et inquiètent sérieusement les autorités, vous publiez le témoignage de Margot, une infirmière de 33 ans en réanimation qui a rendu sa blouse. Qu'est-ce qu'elle vous dit ?
Oui, Margot, elle est surmenée et la première vague a été trop difficile. Elle a passé parfois plus de 14 heures auprès des malades. Elle n'a pas supporté aussi les procédures inhumaines, hein, c'est-à-dire que lorsque les patients étaient en train de décéder, ils ne pouvaient pas voir leur famille. Et ça, c'est vraiment ce qui l'a le plus marqué. Et la fatigue a été telle qu'à un moment, son corps s'est mis à flancher. Elle dit qu'en fait, c'est comme si elle ne quittait jamais l'hôpital. Et à un moment, elle va même être hospitalisée pendant 10 jours dans son service. Et quand elle revient le premier jour, elle tombe dans les pommes. Et elle dit, en fait, je crois que j'avais perdu toute confiance en moi. Et donc, elle rend sa blouse. À ce moment-là, il y a un sondage en fait, de l'Ordre des infirmiers qui montre que 40% des infirmiers ont envie de changer de métier.
Un mois plus tard, vous faites la connaissance de Marvin, un jeune adolescent de 15 ans, au service psychiatrique de l'hôpital Robert-Debré à Paris. Qu'est-ce qu'il a de particulier cet endroit ?
C'est l'un des plus grands hôpitaux de France pour enfants et adolescents. On se rend en fait dans l'unité psychiatrique parce que le chef de service est très alarmiste. Il nous dit « j'ai deux fois plus d'hospitalisations pour idées suicidaires chez les enfants et chez les ados que d'habitude ». Et c'est vrai que ça paraît antithétique de se dire que des enfants peuvent être détruits par cette épidémie, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas touchés physiquement, mais ils sont détruits par les conséquences en fait, de cette épidémie, par le confinement. Ils n'ont plus classe, ils se sentent seuls. Et donc, c'est là qu'on va rencontrer plusieurs enfants. Les plus grands, eux, ils arrivent à verbaliser. Ils arrivent à dire aux éducateurs « j'ai envie de mourir, je ne vais pas bien ». Les plus petits, eux, ils n'y arrivent pas, mais les éducateurs voient qu'ils sont davantage en souffrance. Et d'ailleurs, le Covid est partout, puisqu'ils jouent même dans la cour à tuer le virus. C'est un ennemi imaginaire, et avec des cerceaux et des ballons, ils doivent jeter ces cerceaux et ces ballons sur cet ennemi imaginaire. Et s'ils arrivent à le toucher deux fois, le Covid est mort.
Et donc vous entrez dans la chambre de ce jeune Marvin pour lui parler.
Marvin, il a 15 ans, il a des grands yeux noirs, une bouille d'enfant, et il est vêtu d'un pyjama en papier pour éviter qu'il ne se suicide. C'est ses premières heures d'hospitalisation pour dépression. Il nous raconte qu'au début, pendant le premier confinement, c'était le pied en fait, c'était un peu comme des vacances, il pouvait jouer dans sa chambre à la PlayStation, enfin, c'était vraiment cool. Il nous dit ça en nous regardant dans les yeux en disant « Et peu à peu, l'isolement m'a détruit, la dépression est arrivée sans prévenir. » Ce qui s'est passé, c'est que sans s'en rendre compte, il s'est retrouvé très isolé. Il a commencé à plus vouloir se laver, plus vouloir s'habiller. Tous ces chiffres des morts à l'atelier, ça lui faisait très peur. Il a fait beaucoup de crises d'angoisse. Sa maman, elle est dans la chambre avec lui au moment où on lui parle et elle lui dit « Raconte, Marvin, qu'est-ce qui te rend si triste ?» Et il lui dit « Je peux pas te dire, maman, c'est comme un grand vide autour de moi. » C'était vraiment assez fort de voir un gamin qui racontait qu'il était détruit, en fait, par le confinement.
À la fin du mois de novembre, la France compte plus de 50 000 morts du Covid depuis le début de la crise. Dans les mois qui suivent, Florence Méréo, la situation épidémique se stabilise et la courbe des décès aussi.
Vous avez le nombre de contaminations comme le nombre d'admissions en réanimation qui sont assez stables. Et puis, il y a une forme aussi de lassitude, voire d'habitude dans la population. C'est-à-dire qu'on s'est presque habitué à ce qu'il y ait des morts. Et on va parler de plateau, ou plus exactement de plateau. Moi, j'aime bien une image qui a été prise par un médecin qui dit, vous savez, c'est comme une pente douce à vélo. Ça monte doucement, tout doucement, mais à un moment donné, ça commence à faire mal. À l'hôpital, c'est exactement pareil. Dans un hôpital de Seine-Saint-Denis où je fais un reportage, on va me dire, on est en sursis. C'est-à-dire qu'ils savent que l'épidémie va certainement reprendre.
Elsa Marie, à la mi-mars 2021, pour Le Parisien, vous interviewez par téléphone Nathalie, une femme de 48 ans, un an après la mort de son compagnon des suites du Covid-19. Ce qu'elle vous raconte est bouleversant.
Oui, on fait un dossier sur la culpabilité due aux contaminations dans les familles et on lance un appel à témoignage et c'est Nathalie qui nous répond. Ça va durer pendant une heure, c'est extrêmement éprouvant. Durant toute la discussion, elle retient un sanglot mais qu'on sent prêt à exploser à chaque moment. Et elle s'accuse d'emblée du décès de son mari. En fait, il y a un an, on connaissait pas grand-chose sur le Covid. Elle est allée à un dîner avec des copines, sans savoir qu'elles avaient été contaminées. Et elle est tombée malade, et c'est son compagnon ensuite, Grégoire, qui est tombé malade. Sauf que lui, il a été très gravement atteint, et il a été hospitalisé. Il y a une de ses amies qui l'appelle à l'hôpital. Elle lui dit, en fait, on était contaminés, on le savait pas. Et Nathalie, en fait, elle fait direct le lien et elle comprend que c'est elle qui a transmis le virus à son compagnon. Et le 29 mars, il décède. Et depuis ce moment, elle se l'est jamais pardonnée. Elle raconte qu'elle est allée plein de fois sur sa tombe, qu'elle lui a demandé pardon, qu'elle lui a dit que c'était pas sa place, qu'il avait rien fait. Et elle est rentrée dans un espèce de cycle de rumination, mais infernal. C'était vraiment un témoignage très douloureux parce que non seulement elle a la peine d'avoir perdu son compagnon, mais en plus, elle se dit que c'est à cause d'elle, en fait, qu'il est mort. Et c'est pas du tout un cas isolé puisque il y a 44% en fait des gens qui ont le virus qui savent par qui ils l'ont attrapé. Et dans ces 44%, il y a un tiers qui l'ont attrapé dans leur famille et la plupart du temps, c'est par des conjoints.
À ce moment-là, les services qui accueillent les patients infectés dans un état grave sont de nouveau saturés en Île-de-France. Florence Méréo, il y a des victimes collatérales de cet afflux de malades à l'hôpital. Ce sont ceux qui attendent d'être opérés pour autre chose et qui voient leurs interventions sans cesse repoussées.
Oui, on en parle peu, ou alors on les classe dans la catégorie « pas urgent ». Sauf que derrière ça, en fait, il y a de vrais gens qui ont de vraies souffrances, qui ont de l'inquiétude et qui parfois ont même une perte de chance dans leur maladie. En Île-de-France, on va bientôt arriver à 80% de déprogrammation, c'est-à-dire 8 soins sur 10 qui sont annulés. Nous, il y a quelques exemples, quelques visages qui nous ont vraiment marqués et que l'on a publié dans un dossier que l'on a fait sur la souffrance des déprogrammés. Par exemple, c'est Karine. Elle a 40 ans, elle a eu un cancer du sein, elle a eu une ablation du sein gauche et depuis novembre, elle vit avec un seul sein. Donc déjà, imaginez psychologiquement ce que cela représente, mais il y a aussi des répercussions très concrètes. C'est un emploi qu'elle ne peut pas reprendre, par exemple. Autre cas, celui de Marc, 41 ans. Il a une hernie discale, comme beaucoup de gens, sauf que la sienne, elle dégénère. Il va rester cloué sur son canapé, dans le noir, à souffrir atrocement. Et il le dit lui-même, à se doper aux médicaments, des opiacés, des analgésiques très puissants. Son opération, normalement, elle pourrait durer 45 minutes et lui, ça va faire un mois et demi qu'il vit ce calvaire. Et c'est des gens, finalement, auxquels on pense trop peu.
Mmh. Nous n'oublierons aucun visage, aucun nom, a dit Emmanuel Macron ce jeudi, alors que la France a dépassé le lourd bilan de 100 000 morts à l'hôpital et dans les EHPAD depuis le début de la pandémie de Covid-19.
Florence Méréo, le 15 avril, la France franchit le seuil symbolique des 100 000 personnes décédées des suites du Covid depuis le début de l'épidémie. Derrière ce chiffre qui peut paraître abstrait, vous avez voulu raconter dans Le Parisien l'histoire d'un couple, Thérèse et Alexis.
Derrière ces chiffres, il y a effectivement ces deux visages. Thérèse, elle a 84 ans. Alexis, il en a 82. Et en fait, ils sont mariés depuis 58 ans. Le 1er avril 2020, alors qu'il y a peu de décès dans le département dans lequel ils résident, c'est-à-dire la Sarthe, eux vont avoir cette particularité de décéder à une heure d'intervalle dans des chambres côte à côte à l'hôpital. Si bien que leur fils, qui s'appelle aussi Alexis, va recevoir deux coups de fil de l'hôpital. D'abord pour dire « votre maman est décédée », puis ensuite pour lui dire une heure plus tard « votre papa est décédé ». En une heure, il dit « j'ai perdu mes deux parents ». Et on a voulu finalement rendre hommage à ce couple pour qu'on sache un petit peu qui ils étaient. Et nous, ce qu'on a vraiment voulu dire dans ce dossier, c'est que derrière les chiffres, il y a des visages, il y a des histoires. Et derrière les morts, il y a encore des vivants et certains sont en souffrance.
Elsa Marie, l'exécutif, prévoit de rendre hommage prochainement à tous ces disparus. En tout cas, c'est ce que demandent beaucoup de familles de victimes que vous avez rencontrées.
Certains n'attendent que ça, ils en ont besoin en fait pour pouvoir faire leur deuil. Par exemple, Sabrina Selami, qui a envoyé plusieurs lettres à Emmanuel Macron. Elle, au début de la première vague, elle a perdu son père et son frère du Covid à 24 jours d'intervalle. Son papa, elle a dû lui dire au revoir alors qu'il était encore vivant sur son lit de réanimation. Et son frère, en fait, elle lui a dit au revoir en ouvrant un sac poubelle et en identifiant son visage. Enfin, c'est des choses qui sont tellement violentes. Et donc, ils sont dans une espèce d'entre-deux, de deuil impossible. Et ils disent, aujourd'hui, on a besoin de communier ensemble. Et si ce n'est pas le cas, on ne pourra jamais faire notre deuil.
Merci à Elsa Marie et Florence Méréo. Cet épisode a été produit par Raphaël Pueyo, Marion Botorel et Raphaël Thomas, à la réalisation Julien Moncouquiol. Si vous aimez Code Source, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode sur Apple Podcast ou Google Podcast. Et puis dites-le nous en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre application préférée. Vous pouvez aussi nous écrire codesource@leparisien.fr.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.